Merci. Bah, écoutez, oui, merci d'être présent. Vous êtes nombreux. C'est vraiment très, très agréable pour nous. Et je crois que vous êtes aussi d'origine disciplinaire, différente. Certains sont des professionnels, d'autres sont encore étudiants, certains sont en master, d'autres sont en doctorat, en post-doctorat. Il y a des gens qui ont déjà fait la Winter School qui reviennent, d'autres pour qui c'est véritablement la première fois. Et donc vraiment bienvenue à la fois au Cresson et à la Winter School. Alors pour vous accueillir, effectivement j'ai prévu une intervention en deux temps, très court. Premier temps, c'est quand même vous dire qu'est-ce que c'est que le Cresson. Et le deuxième temps, vous parler de ce qu'on pourrait appeler l'hospitalité des ambiances en général. Et puis vous développerez plus l'hospitalité des ambiances sonores en particulier pendant la semaine. La photo qui est là est une photo que j'ai prise lors d'un workshop avec des étudiants de l'école d'art d'Annecy. D'ailleurs, une des étudiantes est présente dans la salle, là-bas, Alice, où en fait on était tous au sommet du Mont Mézinc. Vous savez, en Ardèche, à côté du Mont Gerbet-Déjon, il y a le Mont Mézinc. La brume montait et, je voyais donc, le groupe d'étudiants au sommet de cette butte en cailloux. Et on avait amené des microphones. Et ce qui s'est passé, c'est que spontanément, ce petit groupe d'étudiantes, c'est-à-dire que des filles, se sont mis à faire sonner le lieu, à le faire résonner, d'autant plus qu'on ne voyait plus l'horizon avec le brouillard. Et en même temps, du coup, il n'y avait plus que le son qui pouvait partir dans les horizons lointains. Et chacune, de façon assez instinctive, s'est mis à dialoguer avec les chants ou les sons des autres et en même temps avec la résonance du lieu. Alors, peut-être le Cresson, c'est ça quoi aussi, c'est de l'espace, du temps, des activités sociales et du son. C'est comme ça que le Cresson est né. Le petit nom du Cresson, c'est Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. C'est une équipe de recherche qui est donc ici, à l'école d'architecture de Grenoble, et qui, avec une autre équipe qui est à Nantes, qui s'appelle le Créneau, en fait, on forme ce qui s'appelle un laboratoire de recherche du CNRS, qui s'appelle Ambiance, Architecture, Urbanité. Et donc, une partie des axes de travail du laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité sont pris en charge par Nantes, d'autres par Grenoble, et d'autres sont communs à Nantes et Grenoble. C'est pour ça que vous voyez toutes les structures qui nous parrainent, enfin dans lesquelles on est en fait nos tutelles, c'est-à-dire en fait dans les membres du laboratoire, il y a des gens du CNRS, de l'Université Grenoble-Alpes, de l'École d'architecture de Grenoble, à Nantes de l'École d'architecture de Nantes, mais aussi de ce qui s'appelle l'École centrale à Nantes pour les Nantais. Mais on a aussi comme membres beaucoup de gens qui ne sont pas liés à ces institutions, mais qui volontairement décident de faire leur recherche chez nous, et on en est très contents. Alors tout a commencé, je vous raconte la légende, j'imagine que le réel est sans doute un peu différent. La légende voudrait que ce personnage-là, Jean-François Augoyard, avec ce personnage-là, Jean-Jacques Delettré, Olivier Balahi, c'est lui. Jean-François Augoyard venait de terminer sa thèse qui s'appelle Pas à pas, une thèse d'essai sur le cheminement urbain à la Villeneuve, où il développait une rhétorique habitante pour dire le quotidien. Et Jean-Jacques Delettré, ingénieur d'une grande école, spécialiste d'acoustique et d'éclairage. La légende raconte que tous les deux devaient faire cours ensemble, enfin devaient faire cours dans la même salle, il y avait un conflit d'emploi du temps, à la même heure dans la même salle. Alors plutôt que de faire ce qu'on fait trop les profs des fois, c'est d'aller râler qu'il y a des conflits d'emploi du temps, ils se sont dit on va inventer un cours à deux. Moi je jouerai le rôle des sciences humaines et toi tu joueras le rôle des sciences de l'ingénieur pour aborder le sonore, le sensible, la vie quotidienne, etc. Et dans cette classe-là, il y avait Olivier Balahi, qui est là, et puis Grégoire Chelkoff, et qui sont des architectes, et qui sont, donc, vous avez là le quatuor de ceux qui étaient vraiment à la naissance du Cresson. La personne qui est là s'appelle Danielle Ruffin, elle était secrétaire de l'école d'architecture et s'occupait de la naissance de la recherche à l'école. Et puis, très vite, beaucoup de gens sont arrivés, dont Jean-Paul Thibault, sociologue. Et pourquoi je dis Jean-Paul Thibault là? Parce que je vais vous en parler. Je vais m'appuyer sur ses travaux pour ma présentation de ce matin, mais j'aurais pu m'appuyer sur les travaux de plein d'autres personnes du laboratoire. Et donc là, nous sommes en... La photo est de 84, mais la fondation du Cresson est de 79. Et donc, vous voyez qu'en 2019, on a fêté nos 40 ans. Alors, à l'échelle du laboratoire, c'est-à-dire à l'échelle de Nantes et Grenoble, on travaille donc sur ces relations ambiance, architecture, urbanité, en se disant, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à travailler là-dessus, loin de là. Et donc, il faut voir quelle est la spécificité d'une approche qui intègre la question de la perception habitante, la question de la conception des espaces, au milieu de tous ceux qui travaillent sur ce qui s'appelle les atmosphere studies, les philosophes, les géographes, les littéraires, les acousticiens, etc. Il y a aujourd'hui un milieu assez grand de gens qui travaillent sur le domaine des ambiances et des atmosphères. Et donc, on essaye, avec notre histoire, de dialoguer avec toutes les approches sur les ambiances et de nous situer autour d'eux, avec eux. Alors, cette notion d'ambiance, évidemment, elle n'est pas juste se dire quelle est la bonne acoustique du lieu, quelle est la bonne luminosité. Vous voyez, la bonne luminosité, je ne peux pas vidéoprojeter parce qu'il y a trop de luminosité. Mais là, on serait quand même dans une ambiance assez technique, fonctionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais quand même, les ambiances, elles ont bien sûr une portée esthétique, une dimension esthétique, mais elles ont sans doute aussi une dimension politique. Alors, peut-on parler d'une ambiance fin de règne, par exemple, ou fin de siècle ? Qu'est-ce que c'est qu'une ambiance de fête, une ambiance de deuil, une ambiance peut-être aussi d'infrapolitique ? C'est quoi la grande ville aujourd'hui ? Quel est le rôle des ambiances dans la perception de la grande ville, dans la perception de la nature ? Quelles sont ces nouvelles sensibilités à l'écologie qui font face ? Et comment le sensible et la notion d'ambiance a des choses à dire sur ces choses-là ? Ça nous entraîne sur le troisième axe, qui est que par l'ambiance et par le sensible, on regarde les transformations socio-écologiques de nos milieux de vie. Mais comme on est dans une école d'architecture, on tient aussi à pouvoir tracer, critiquer la façon dont se fabrique l'espace et à la façon dont il s'expérimente. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien direct entre la fabrique d'une ambiance et la fabrique d'une architecture, mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'entre le fait qu'il y ait du stimulus-réponse, je vais concevoir ça, alors l'ambiance sera comme ça. Bon, ça ne marche pas comme ça, fort heureusement. Mais l'inverse non plus n'est pas valable. C'est-à-dire ne pas penser que quand on intervient sur l'espace, on fait des modifications d'ambiance, ça serait faux. Et donc c'est ces liens-là qu'on essaye de tracer, critiquer et expérimenter aussi pour mieux dire le monde dans lequel on est et dans lequel on n'est pas que des sujets percevants, mais on est bien des sujets actants, voire des sujets qui transforment les choses. Et donc c'est le dernier axe qui est comment est-ce qu'on exprime ces mondes perçus ? Comment est-ce que j'exprime ces nouvelles sensibilités au sonore, à l'écologie, au visuel, au lumineux, au tactile, aux affects, etc. Et là, on a tout un débat sur peut-on représenter une ambiance ou est-ce que toute tentative de représentation d'une ambiance n'est-elle qu'une traduction qui vise à redonner une nouvelle expérience, etc., etc. Donc, on navigue avec ces six lignes d'horizon dans des enjeux théoriques et dans des enjeux pratiques. Pour les travailler, on a toute une série de groupes de recherche. Vous en voyez un qui est là, enfin, vous ne le voyez pas, mais je vous le montre, qui s'appelle Espace Sonore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en gros les sujets de façon moins générique que ce que je vous ai dit avant, sur quoi on travaille aujourd'hui. Évidemment, chacun de nous appartient à plusieurs groupes parce que nos sujets sont toujours évidemment croisés. Et c'est des groupes de recherche qui évoluent. Certains disparaissent par manque d'énergie pour les diriger ou ils disparaissent parce que la question se pose différemment 5 ou 6 ans après. Et puis de nouveaux groupes apparaissent parce que de nouvelles questions ou des nouvelles façons de formuler les choses apparaissent. Alors, et j'en arrive presque à la fin de ma présentation sur la première partie. Comme je vous disais, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, même si au Cresson, on est 67 aujourd'hui, si je compte les doctorants, les chercheurs, les enseignants, les chercheurs associés, le personnel administratif, etc. on a ce qui s'appelle un réseau international Ambiance, qui est là, qui s'appelle ambiance.net. Vous pouvez tous en devenir membre, entre guillemets, il n'y a pas de cotisation. Ça vous permet d'être au courant de ce qu'il se passe dans la communauté des ambiances à l'échelle internationale. Le deuxième outil, c'est une collection de livres. Chez Routledge, une collection de... C'est mieux ou moins bien ? C'est mieux ? Une collection de livres chez Routledge, en anglais, qu'on est peut-être déjà son 14e ou 15e ouvrage. C'est une collection qui, justement, vise à animer le débat entre les notions d'ambiance et les notions d'atmosphère. Et beaucoup d'ouvrages concernent le sonore. Enfin, le dernier outil qu'on s'est donné, c'est une revue internationale qui s'appelle Ambiance, on n'est pas très original, et dans lequel paraît un dossier annuel thématique et des articles au fil de l'eau. Et donc, tout est en open access. La question de la science ouverte et de l'open access, en fait, fait partie de la politique du laboratoire que signe chacun de ses membres, c'est-à-dire que les travaux qui sont financés par, entre guillemets, de l'argent public, tombent dans le domaine public. Alors, ça, c'était ma première partie pour vous présenter à grands traits le Cresson. La deuxième partie vise peut-être à faire un petit focus pour dire, même si vous avez travaillé sur le sonore, comment est-ce qu'on fait, quel lien on peut commencer à faire entre hospitalité et ambiance. Et je vais m'appuyer, vous allez le voir, sur les travaux de Jean-Paul Thibault, donc, pour le faire. Mais depuis peut-être 15 ans, je démarre souvent un cours sur la notion d'ambiance par cette photo. C'est une photo de Wim Wenders, c'est lui qui l'a faite, dans un ouvrage qu'il a fait paraître dans les années 90. C'est une photo de 1974, extrait du tournage d'Alice dans les villes. Là, vous avez l'actrice principale qui est assise sur un trottoir. Le trottoir est plutôt sale, le mur est sans doute dur. Elle est dans un angle de rue, si quelqu'un tourne, on peut lui rentrer dedans. On sait que la pollution atmosphérique des voitures est plutôt près du sol qu'en l'air, donc elle est plutôt plus très proche de la vraie pollution atmosphérique, etc. etc. Et donc, pourrait-on utiliser un terme plus classique, serait de dire, est-ce que la personne est en situation confortable ? Ben, si on prend tous les critères du confort normé, hein, être bien assis, ni trop froid, ni trop chaud, ne pas pouvoir se faire déranger par d'autres, etc., etc., on pourrait dire qu'il y a tous les critères de l'inconfort. Et pourtant, quand on regarde bien, elle est en train de tenir dans ses mains un réflecteur de lumière. Tu sais, au cinéma, il y a des réflecteurs de lumière pour, de façon à augmenter la luminosité sur les personnages pour le chef opérateur. Et elle a pris un réflecteur de lumière et elle-même vient se mettre là pour faire un bain de soleil avec ce réflecteur de lumière. Et donc, quand on la regarde, elle est effectivement apaisée et on comprend tout de suite qu'elle a voulu se mettre là exactement et pas ailleurs, que c'est une décision volontaire d'être ici. Aussi parce que, et ça c'est écrit dans le texte du livre, en fait, elle s'était mise à l'écart du studio, enfin du plateau de tournage, pour se concentrer et s'isoler de l'activité du studio de tournage, mais en même temps, elle voulait être à un endroit où elle pouvait depuis là voir le plateau, de façon à pouvoir y retourner, ou qu'on puisse l'appeler, etc. Et donc, peut-être voici un exemple pour moi d'hospitalité des ambiances, c'est-à-dire une situation construite, sociale et sensible, qui trouve une espèce d'unicité dans la façon dont elle s'est installée là, où c'est sans doute à ce moment-là la meilleure place pour elle, pour se concentrer, être pas trop loin du studio, se faire un bain de lumière parce que le soleil est à tel endroit, etc. Et peut-être même aussi pour développer un certain style. C'est-à-dire elle-même, en fait, sa présence dans l'espace public n'est pas anodine et dégage une façon d'être qui sans doute témoigne de la façon dont elle souhaite se montrer envers du public. Alors... J'aborde la notion d'ambiance par Jean-Paul Thibault. Alors Jean-François Augoyard a été vraiment un des fondateurs, hein, avant Jean-Paul, pour parler de la notion d'ambiance, où en fait Jean-François part vraiment d'une idée extrêmement constructive, c'est que la notion d'ambiance est fondamentalement interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à la fois à la dimension construite, bâtie des lieux, à la dimension sociale et à la dimension sensible. Et donc, c'est le croisement de ces trois dimensions-là. Mais il rajoute, et qu'en plus, elle a la capacité d'être énonçable. C'est-à-dire le langage permet de la dire. Ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les notions qui ne s'expriment pas forcément par le langage. Ça, c'est une première définition qui justifiait en fait des travaux pluridisciplinaires, voire interdisciplinaires pour la notion d'ambiance. Jean-Paul Thibault, qui est sociologue, très proche du pragmatisme nord-américain, après beaucoup de travaux, propose en fait 6 dimensions pour la notion d'ambiance que je trouve extrêmement opératoire. C'est-à-dire qu'il y a 6 façons de voir la notion et vous aurez sans doute, je pense, utilité à utiliser ces 6 façons pour comprendre des situations que vous allez observer sur le campus ou que vous allez imaginer projeter sur le campus. Premièrement, il y a une dimension spatiale. L'ambiance, c'est un champ diffus. L'ambiance nous enveloppe. Deuxièmement, il y a une dimension de corporéité, c'est-à-dire l'ambiance stimule, il y a une sollicitation motrice. Si là on mettait de la musique, notre corps se mettrait peut-être à bouger légèrement. Si par exemple vous descendez un escalier en colimaçon, vous allez vous mettre dans une logique de tournis avec le corps, même si vous êtes âgé et que vous n'en rendez pas compte, vous allez changer légèrement votre façon d'être, parce que tout simplement le cadre, l'ambiance agit évidemment sur nous de façon évidente. Et l'ambiance, elle est partageable, donc elle relie, c'est l'enjeu de la socialité. Ben, typiquement, on vit sans doute pas exactement tous la même expérience en ce moment, parce qu'on n'a pas la même physionomie, parce qu'on n'est pas placé au même endroit, parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on n'est peut-être pas forcément en bonne santé ou en mauvaise santé, parce que, etc. Et en même temps, je ne crois pas qu'on a l'impression que l'on vit en ce moment une dimension séparée tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'on partage quelque chose, alors même qu'il y a des variations dans la façon dont on perçoit. Et donc l'ambiance relie. Quatrièmement, l'ambiance, elle n'est pas donnée. Si vous étiez arrivé à 8h du matin ce matin, ben vous aurez vu que la pièce, ce n'est pas la même ambiance que maintenant. Et peut-être quand on sera vendredi, vous aurez terminé vos travaux, alors ça sera sur le campus, il y aura encore une autre ambiance. C'est-à-dire qu'une ambiance, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, elle s'installe et elle peut, entre guillemets, disparaître, se modifier, etc. Et alors, une des enjeux très complexes pour la notion d'ambiance, c'est de dire, mais même si l'ambiance, elle a une dimension temporelle, elle s'installe, qu'est-ce qui fait qu'on la retrouve? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même des ingrédients qui font que, quand on revient, eh ben, on retrouve quelque chose qui en fait son essence dans ce lieu-là? Ou peut-être que, des fois, il suffit d'enlever une chose et tout est cassé, on ne le retrouvera plus. Donc ça, c'est des enjeux très importants pour nous de savoir, mais quels sont ces éléments qui constituent la base d'une ambiance, ou peut-être quels sont les gestes qui instaurent aussi les ambiances. Bien sûr, l'ambiance, elle a une tonalité affective. Si vous venez de perdre un parent ou que vous venez, je ne sais pas, de faire votre anniversaire, si vous découvrez que vous êtes malade ou qu'au contraire, votre test d'examen vous montre en pleine santé, bah, ça affecte complètement la perception du lieu, de l'ambiance dans lequel on est. Je prends des extrêmes, évidemment. Et puis, l'ambiance, elle est intersensorielle, elle intègre. C'est-à-dire que là, j'aurais une grande capacité, en tant que, avec mon petit passé de mathématicien, de dire, bah, l'acoustique du lieu, il y a tant de secondes de réverbération, il y a tant de luxmètres qui rentrent par la fenêtre, la température de l'air est à tant, mais ce qui compte, c'est la température de rayonnement des murs, ou c'est le taux d'humidité, et puis quel est l'angle solide que je fais avec cette baie vitrée qui me donne ma luminosité pour pouvoir travailler. Oui, je pourrais décomposer à l'infini, paramètre par paramètre, des phénomènes d'ambiance. Et pourtant, quand on les vit au quotidien, on ne les vit pas séparément. Là, en ce moment, dans votre quotidien, vous ne séparez pas l'acoustique de la thermique, de l'éclairage, du tactile, etc. Sauf quand il y a des cas extrêmes, si par exemple il y avait une sirène de pompiers, ou je ne sais pas, le chauffage se coupe au bout d'une heure, ou dans ce coup, il peut y avoir des modalités sensorielles qui prennent le pas sur les autres. Mais dans la vie quotidienne, vous ne séparez pas au quotidien ces analyses-là. Et donc ce qui est intéressant, c'est de dire quand on a une situation, comment ces 6 dimensions-là jouent, comment elles sont actives avec des majeurs et des mineurs. Et c'est peut-être une façon d'analyser de façon pluridisciplinaire une situation d'ambiance qui ne sépare pas l'action de la perception et peut-être même de cette dimension esthétique et interprétative de toute ambiance. Alors, Là, je vous ai parlé de l'ambiance de façon extrêmement positive. On peut peut-être, et Jean-Paul propose de la regarder aussi sous un angle. Alors, si on avait Paola Vigano avec nous, elle nous dirait de l'angle de Lucifer, c'est-à-dire quelles seraient les mauvaises pentes. Quelles pourraient être les mauvaises pentes de la notion? Alors, voici ce que dit Jean-Paul, hein, c'est-à-dire si l'ambiance donne corps et conditionne l'hospitalité urbaine, si elle intensifie la vitalité d'un espace et augmente la puissance d'agir des citadins, là je le cite, en fait l'ambiance elle inquiète aussi, au sens de Walter Benjamin, de différentes façons. Alors voici peut-être les inquiétudes qui nous guettent et dans lesquelles il nous faut faire attention de ne pas trop tomber, et qui sont des inquiétudes dans lesquelles on peut assez facilement, se trouver une opérationnalité partagée, et qui sont sans doute, enfin qui sont sûrement des vrais faux amis. Alors là, je me réfère à une conférence qu'il a donnée à Bruxelles en 2017, comme dans le même cadre que toi, Céline, le Métro Lab de Bruxelles. La conférence est en ligne. Alors Jean-Paul pointe quatre inquiétudes. Première inquiétude, un processus d'aseptisation. S'attend à l'appauvrissement de l'expérience urbaine en lissant les surfaces de la ville, en effaçant les traces d'usage et la patine du temps, en épurant l'espace aménagé et ses aspérités, sous prétexte de le rendre davantage accessible et lisible. Vous pouvez aussi consulter les travaux de Rachel Thomas, qui est la directrice de ce laboratoire AAU, qui a travaillé justement sur cette notion d'aseptisation des ambiances, qui se produit sans forcément qu'il y ait un discours pour le dire. Et Marc Brévé-Guillieri, un autre chercheur du Cresson, parle lui de la ville garantie. C'est quoi cette ville garantie qu'on pense souhaiter ? Garantie sans accident, garantie sans aspérité, sans saleté, sans risque pour nos enfants, nos personnes âgées, sans etc., etc. La deuxième inquiétude serait un processus de spectacularisation et d'animation de l'urbain, de mise en représentation de la ville, qui tend à transformer les passants en spectateurs. Il s'agit de plus en plus de la mise en place de politiques programmées d'animation de l'urbain. Le lieu nous paraît triste, alors on va l'animer. Mais est-ce que la vie consiste à animer des espaces ? Est-ce que notre vie d'habitant consiste à apprécier l'animation des espaces qui est faite pour nous ? C'est toute une relecture de la société du spectacle de Guy Debord qui peut être faite par les ambiances. Et d'ailleurs, c'est un terme extrêmement utilisé par les situationnistes que le terme d'ambiance. La troisième inquiétude serait un processus de médiatisation qui tend à redistribuer les formes d'attention dans l'espace public dans lesquels les citadins vivent dans un monde de plus en plus appareillé et qui les sollicite et affecte en profondeur leurs expériences. Si je me mets à regarder mes mails là maintenant, je vais quelque part me couper un peu, évidemment, de l'ambiance du lieu. Peut-être pas complètement, c'est plus fin que ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la dimension numérique, en fait, fait que on a une relation à l'espace public qui est médiée de façon autre qu'uniquement par les modalités sensorielles. Positif ou négatif, c'est toujours pareil, l'inquiétude est toujours les extrêmes. Donc là, il s'agit de la question de l'attention et de ses modalités de captation. Comment certaines choses captent notre attention. Là, on pourrait bien sûr aller de façon théorique plus du côté de Yves Citon avec son ouvrage sur l'écologie de l'attention. Le dernier, qui est assez passionnant pour les architectes, ce serait le risque d'un processus de climatisation qui tend à produire des environnements sensibles de plus en plus maîtrisés et artificiels, où l'on voit la conception de nouveaux milieux ambiants à part entière, allant littéralement parfois à la production d'architecture capsulaire. C'est-à-dire l'architecture deviendrait uniquement une capsule d'air dans laquelle on contrôlerait tous les paramètres et où l'homme, la femme, n'aurait plus rien à contrôler puisque le dispositif se substitue à toutes nos actions pour contrôler l'environnement dans lequel on est. Et donc, une ambiance qui reste poreuse et articulée avec l'extérieur disparaîtrait complètement ou du moins pour partie. Alors, si j'ai commencé avec la photo d'Alice dans les villes, qui était une photo ancienne, j'ai le plaisir à remercier toute l'équipe d'organisation de la Winter School. Vous n'en avez qu'un seul à l'image, c'est Marc. Mais Marc est là dans un, un endroit où on a fait des expériences sonores. Et c'est un peu, vous vous rappelez la photo initiale, celle-ci. Voici peut-être une autre forme d'hospitalité des ambiances sonores, puisqu'il est certain que Marc s'est assis là, parce qu'il voulait se mettre en retrait de toute l'activité des 40 personnes qu'on était, parce qu'il voulait tester des sons, les écouter et bricoler tranquillement dans son coin, littéralement. Alors je vous souhaite une très bonne 12e Winter School de la part de toute l'équipe du Crescent.
Merci Nicolas. Bon, j'ai posé une question parce que donc on discutait avec les doctorants du Cresson sur cette notion d'ambiance et j'aimerais que tu reviennes sur comment est-ce que cette notion a été transmise à travers les générations de chercheurs du Cresson, notamment peut-être par le DEA qui existait sur les ambiances. Et qui a formé en fait toute une génération, enfin plusieurs générations de chercheurs au Cresson, et qui maintenant n'existe plus, mais qui a enrichi cette notion d'ambiance qui a évolué à travers les années.
Alors je vais essayer de le faire vite. Moi je suis issu de ces deux A, c'est-à-dire quand je faisais mes études d'architecture. J'ai eu Jean-François Goyard quand j'étais en deuxième année dans un séminaire sur l'espace sonore. Et la première expérience qu'il nous disait, c'est quoi un espace si on le considère que par le son ? Ça paraît tout bête, mais quand on est en deuxième année, c'est une espèce de révolution. Et qu'est-ce que ce serait de concevoir un lieu uniquement par le sonore ? Alors évidemment, ça a ses limites. Il n'empêche que ça bouscule tout. Et lorsque le rendu de fin d'année, on était en deuxième année, était une bande son, qu'on faisait encore avec des bandes magnétiques, le rapport à la conception, au monde intellectuel, à la théorie, à l'écoute, et pour moi à la radio aussi, parce que je faisais un peu de radio pour Europe 2, je faisais des chroniques radiophoniques, ça a été complètement une bascule. Et puis effectivement le Cresson a créé avec Nantes ce DEA, donc c'était une formation post-master, l'équivalent d'un an, qui permettait après d'aller en doctorat. Et aujourd'hui je crois qu'il y a plus de 40 personnes dans les universités, écoles d'architecture qui sont issues de cette formation sur les ambiances. Alors, la notion d'ambiance n'est pas apparue tout de suite. Plus exactement, au tout début, le titre emporte, vous voyez, c'est environnement urbain, le titre d'origine. La notion d'environnement, dans les années 70, était extrêmement pluridisciplinaire. Elle était portée par l'équivalent du ministère de l'écologie, qui portait un autre nom, et elle intégrait vraiment une pluridisciplinarité. Et puis, petit à petit, la notion d'environnement est allé beaucoup plus du côté des sciences de l'ingénieur ou du côté de l'écologie. Ce qui n'était pas forcément grave en soi, parce que c'était bien, mais on perdait l'esthétique, le sensible, la conception, les pratiques habitantes, etc. etc. Le mot paysage est monté en puissance. On a Lolita Voisin qui a dirigé une école de paysage qui est présente avec nous dans la Winter School, est monté en puissance dès les années 80 avec des écoles de paysage, avec des théoriciens, etc. Mais le mot paysage a recouvert beaucoup d'acceptation, et si parfois il se recoupe avec la notion d'ambiance, par exemple là dans la pièce on a du mal à parler de paysage, vous voyez, pour ce qui se passe ici. Si on est dehors, on peut beaucoup plus hybrider déjà, etc. Mais on voit bien que intérieur-extérieur, c'est une forme de coupure peut-être qui rend que la notion de paysage, même dans les meilleures acceptations de certains théoriciens, ne fonctionne pas forcément là. Qu'est-ce qui se passe si on commence à parler d'un paysage politique ? Là, vous avez vu, ça ne marche pas toujours si simplement. Il y a pas mal de nouveaux théoriciens qui commencent à parler d'ambiance politique. Vous avez entendu parler peut-être aujourd'hui de l'ambiance du djihadiste. Hein, c'est un mot qui revient très fortement. C'est-à-dire la notion d'ambiance a une espèce d'usage dans des multiples disciplines qui aujourd'hui est extrêmement intéressante à étudier, même si peut-être ça va peut-être lui faire perdre une forme de précision dans la façon de la travailler. Et donc, lorsque Nantes et Grenoble ont dû créer un laboratoire commun, il leur fallait une notion commune. Ça ne pouvait pas être le sonore qui était propre à Grenoble. le mot environnement était déjà pris par plein de laboratoires qui travaillaient de façon plus sur les sciences de l'ingénieur, sur la question environnementale. Le mot paysage était pris vraiment par les paysagistes, les formations au paysage, etc. Et la notion d'ambiance est apparue très vite comme une notion qui n'avait pas encore d'école en France, qui a plusieurs antécédents qu'on ne renie pas, les situationnistes. Toute la question aussi d'une psychologie liée au corps avec des gens comme Eugène Minkowski, par exemple, la psychopathologie. Des psychiatres ont beaucoup travaillé, des psychologues, sur la notion d'ambiance. Ludwig von Berg, je vais me tromper, mais là, Céline pourra mieux vous en parler. Et on retrouve cette notion avec d'autres termes, comme atmosphère en particulier, dans toute la philosophie allemande, avec de multiples variations. Entre nous, on est capable d'être absolument pas d'accord sur la façon dont on utilise le mot ambiance, atmosphère, milieu, etc. Mais vu de loin, on est vraiment assez d'accord, je crois. Et donc, cette notion d'ambiance, en fait, a été montée en puissance en disant c'est de l'interdisciplinarité, c'est du sensoriel, c'est des usages, et ça intègre la conception, et c'est trans-échelle. On peut parler d'ambiance pour un lieu, pour une pièce, pour un quartier, pour une ville, et peut-être pour un territoire. Et peut-être même plus spécifiquement, enfin plus ouvertement aujourd'hui, peut-on parler d'ambiance pour une époque, pour une période, pour etc. Voilà, donc cette notion a été après travaillée. Il y a plusieurs théoriciens chez nous de la notion. Je peux citer Pascal Anfou, Jean-Paul Thibault, Jean-François Augoyard, Céline maintenant, qui travaille aussi là-dessus, et beaucoup d'autres dans d'autres laboratoires en France. Hein, vous avez comme Bruce Bégout qui travaille fortement, qui a sorti un livre intéressant, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord forcément avec tout, mais c'est très intéressant. La philosophie allemande aujourd'hui est extrêmement forte sur la notion d'atmosphère. La géographie culturelle, on va dire, nord-européenne est extrêmement importante. Toutes les nouvelles philosophies, mais dont je ne serais pas capable de vous parler très attentivement, s'interrogent sur ce type de notion, même si ce n'est pas une notion. C'est quoi ? C'est un quasi-objet, est-ce que ça rejoint les nouveaux matérialistes ? Est-ce que la phénoménologie peut tout décrire ? Est-ce que le pragmatisme est suffisant ? Est-ce que, vous voyez ? Donc là, aujourd'hui, le Cresson est largement débordé, au sens positivement, par énormément de travaux qui œuvrent à essayer de définir, pour dire ce qui se passe là, ici et maintenant, dans une situation d'une pièce, mais peut-être dans la situation du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc en fait, il y a un renouvellement assez fort, non pas du mot, mais du champ que recouvre le mot. Avec cette idée quand même qu'on garde au Cresson, qu'elle est quand même applicable, entre guillemets, on peut quand même la mobiliser pour la conception. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un outil d'analyse, ça peut être aussi un outil de conception, c'est-à-dire un outil dans lequel on accepte d'agir sur le monde, même si on se trompe, même si ce qu'on fait n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mais quand même un outil qui a une forme d'opérationnalité. Alors, la notion de milieu a été beaucoup développée en France par Augustin Berck, enfin, du moins c'est un des auteurs les plus connus. Et oui, il y a une vraie porosité entre les deux notions, mais elle n'est pas... pour décrire, par exemple, la situation du parc, peut-être que la notion de milieu et d'ambiance, elle va se recouvrir pour une grande partie. Peut-être que pour décrire d'autres situations, la notion de milieu ne sera pas bonne, ou peut-être la notion d'ambiance ne sera pas la meilleure.
Est-ce que sur justement tous ces usages possibles des notions d'ambiance, il y a quand même environnement urbain dans le titre du laboratoire, et puis en fait vous avez plusieurs fois dit environnement urbain dans votre présentation. Et finalement je me disais, je pense que 80 ou 90%, il ne faut pas quantifier, mais bon, une grande partie de ces analyses, j'ai l'impression, est très valide pour d'autres types d'environnement. Et donc, est-ce qu'au Cresson, finalement, il y a une, une approche, enfin, d'où vient justement, est-ce que c'est juste un peu une coïncidence parce que les gens travaillaient sur l'urbain, ou est-ce qu'il y a une particularité vraiment de parce que même sur, au début je me suis dit, il y a la question de la conception, en fait même dans des environnements
naturels,
des communautés autogérées, des campings, tout un tas de trucs, il y a des gens qui conçoivent des lieux, alors peut-être pas avec des choses en dur, etc., mais il y a quand même une conception des lieux.
Alors, comme je disais, la naissance du Cresson est venue des travaux de Jean-François Gaillard sur ici la Villeneuve de Grenoble. C'est-à-dire un nouveau quartier. Le Cresson est né à la fin de la construction de la Villeneuve. La Villeneuve était finie quand le Cresson est né. Et Jean-François Gaillard a fait sa thèse pendant la construction de la Villeneuve, c'est un des premiers habitants. C'est-à-dire que la question qui interrogeait beaucoup les gens dans les années 70, c'était l'invention d'une nouvelle ville qui permettait une nouvelle vie. C'est vie nouvelle, etc. L'autre question qui animait beaucoup, c'est l'action de l'espace public aussi. Les années 80-90 ont été très importants. C'est quoi l'espace public ? Comment on le fabrique ? Quelle est son importance ? C'est pas qu'une question technique, etc. Donc il y a une histoire de la sociologie, pas que française, on va dire, si on prend tous l'ethnométhodologie, les pragmatistes américains, etc., plutôt des villes, l'école de Chicago, par exemple. Donc les méthodes, la façon d'étudier des lieux, etc., ont beaucoup été sur la question, effectivement, de l'espace public. Et on va dire que la question des espaces qui ne sont pas urbains... Alors, le périurbain est arrivé assez vite au Cresson. C'est arrivé, on va dire, dès les années 2000. Et la question d'espaces qui ne sont ni urbains ni périurbains est présente depuis une petite dizaine d'années. Et nous devons d'ailleurs apprendre des choses, parce que du coup, plein, par exemple, de jeunes doctorants qui sont dans d'autres laboratoires viennent plutôt des milieux de l'écologie, du paysage, de la nature, etc. Et font des choses passionnantes. Et oui, la notion d'ambiance, elle est pas... Alors, une question théorique compliquée, c'est que dans l'histoire de la notion d'ambiance, elle était relativement anthropocentrée. Est-ce une bonne idée, enfin, est-elle réellement anthropocentrée ? Ben, c'est pas sûr. La façon dont je vous l'ai présentée est relativement anthropocentrée. Vous voyez, je ne vous ai pas parlé de l'ambiance pour la plante, pour un animal, peut-être pour autre chose. Donc cette question de d'où je pars, de comment je pars, et l'ambiance pour qui, pourquoi, le fait de l'étudier par la nature change quand même beaucoup ces questions-là. Donc chez nous, je dirais, c'est quand même... c'est pas l'origine de nos travaux, mais c'est présent dans beaucoup de travaux, en particulier des doctorants. On a une ANR qui s'appelle Sensiblia, qui interroge notre rapport sensible au territoire, qu'il soit urbain ou pas urbain, en fait. Ce n'est pas le... Voilà. Mais, ouais. Donc c'est assez une histoire quand même des disciplines et des époques. Mais il faut savoir que la sociologie a énormément évolué sur l'action des espaces publics. Toute la sociologie américaine, puis française... Henri Lefebvre et tous ceux qui ont suivi, jusqu'à pour nous des gens très très importants comme Isaac Joseph, qui sont des auteurs en fait qui se posaient la question de j'étudie le terrain, mais comment ? Et j'étudie le terrain non pas pour ce qu'il est, mais pour quelque chose qui est en train de s'y faire. C'est l'étude du cours de l'action aussi. Voilà. Et donc on a été, enfin, je dis on parce que moi je fais partie de la troisième génération, mais ceux d'avant moi, du coup, ont été extrêmement. Proche de tous ces courants-là. Mais là, je pense que tu pourras, toi, en parler plus. Ah, je n'ai pas précisé, moi je suis architecte, hein, pas philosophe, mais j'adore en fait ce décalage. Quel outil ?
Le sonore, l'utilisation du sonore. Alors, l'image a pu avoir...
Ouais. Je ne vais peut-être pas y répondre. Je ne suis pas sûr que ma réponse soit exactement ta question, mais une réponse que j'ai, c'est pourquoi le sonore, 40 ans après, continue au Cresson à être puissant ? J'ai une hypothèse, mais elle est très débattable. Hein. Elle est double hypothèse. D'abord, que le sonore, historiquement, a toujours fait des bons compagnons entre disciplines. Je parle par exemple entre art et science. C'est très classique que des excellents musiciens étaient aussi des très bons acousticiens, et réciproquement. C'est-à-dire qu'il y a, et même d'un point de vue de l'évolution des techniques, art et science et technique sur le sonore, ont énormément dialogué. Il y a très peu d'artistes sonores qui n'y connaissent rien en technique. Et il y a très peu de gens qui travaillent sur le sonore en technique qui n'ont pas une fibre aussi de l'écoute et de l'artistique. Donc, et ça, je crois, c'est depuis 100 ans au moins, enfin, c'est depuis, à mon avis, dès la naissance des outils d'enregistrement. Où là, il y a une proximité, un intérêt réciproque des différents mondes sur le sonore. Aussi, des travaux sur le sonore, jusque dans les années 2000, il n'y en avait pas des milliards non plus. Et donc, c'est un champ qu'on pouvait cerner dans une dimension assez pluridisciplinaire. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Le deuxième, mais à mon avis, ce n'est pas exactement ta question, c'est qu'il y a eu une phase au Cresson où, regarde, jusqu'aux années 2000, par exemple, le sonore a été extrêmement travaillé pour être défini. Mais c'est quoi les effets sonores? C'est quoi un paysage sonore? C'est quoi l'ambiance sonore du lieu? Comment je peux concevoir par le son, etc. Et puis, je pense à partir des années 2005, peut-être, le sonore a été utilisé comme outil pour interroger d'autres sujets. Qu'est-ce que, si j'étudie un sujet par le sonore, qu'est-ce que ça me dit de ce sujet-là? Tiens, la question de la densité, vue par le prisme du sonore. La question du périurbain, vue par le prisme du sonore. La question du chantier, vue par le prisme du sonore. La question de la mixité, ou de quels que soient les sujets, en fait, du monde. On se dit, ben, le son n'est pas uniquement la finalité de la recherche ou de l'étude, mais le moyen d'aller interroger un sujet qui n'est pas le son. Parce que ça nous permet d'en dire des choses, peut-être d'une autre façon, et ça nous permet peut-être aussi, par l'écoute, d'obtenir des paroles et des compréhensions par le sensible qu'on n'obtiendra pas avec d'autres outils, plus quantitatifs ou autres. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement ta question, j'ai bien conscience. Après, on travaille avec des laboratoires de neurosciences un peu. Et si c'est ça que tu voulais... Oui, totalement.
Et en fait, c'est un peu le même ressenti que j'ai avec l'image pour le film. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même cette réticence qui fait que ça a du mal à se développer et à se mettre en place. Ouais. C'est un outil qui est formidable parce qu'il amène également d'autres choses.
Le sonore, il y a la question de l'écoute, et l'écoute, ça dépasse largement le sonore. L'écoute, c'est une. C'est l'être au monde, quoi. Bon, mais je pense qu'il est peut-être temps que vous ayez d'autres interventions pour compléter ou nuancer ou contredire peut-être ce que j'ai dit, et c'est tant mieux. Merci beaucoup.